toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Roquilly, mais aussi Samuel Bernard, Clément Salazar, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Journaliste au Monde, bien sûr Marc Semo. On va parler aujourd'hui de la Syrie. Épaulé par les frappes aériennes russes, mais aussi par les combattants iraniens, le Hezbollah libanais et les milices chiites irakiennes, l'armée syrienne a repris cette semaine le contrôle de la vieille ville d'Alep, place forte de la rébellion anti-Assad. En effet, les loyalistes ont repris l'essentiel des quartiers tenus par les opposants syriens, marquant ainsi un nouveau tournant dans le conflit qui dure depuis plus de 5 ans maintenant, qui fait plus de 300 000 morts et des millions de déplacés. Et alors que rien ne laissait l'espérer, Moscou vient d'annoncer un arrêt des raids aériens et des tirs d'artillerie de l'armée syrienne sur Alep, une mesure censée permettre l'évacuation de milliers de civils. Comment comprendre cette trêve soudaine? La reprise d'Alep signe-t-elle la fin de la révolution? La victoire totale d'Assad est-elle proche? Et d'ailleurs, quelle victoire? Quelle guerre Assad aurait-il gagné? Voilà la question qu'on va se poser ce matin. Pour ce faire, nous recevons ce matin Yves Aubin de la Messusière. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France dans un certain nombre de pays. Je pense à la Tunisie, le Tchad également. Et vous êtes auteur de ce livre « Monde arabe, le grand chambardement » qui vient de paraître chez Plomb. On aura également Ziad Majed qui va arriver dans quelques instants dans ce plateau, sur ce plateau. Mais avant d'évoquer ce conflit syrien, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Turquie.
Je n'ai pas eu peur. Je ne pensais qu'à sauver mon pays, à rien d'autre. Je n'ai pas pensé à mes enfants ou à mon mari. Je ne pensais qu'à mon pays. On est allé dans la rue avant que notre président Recep Tayyip Erdogan nous demande d'aller dans la rue. Je tiens à dire que Recep Tayyip Erdogan, notre président, est une bonne personne. Notre président ne s'est pas enfui cette nuit-là. Et nous suivrons notre président jusqu'à notre dernière goutte de sang.
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'est celle de Safiye Bayat, une mère de famille qui avait fait face au char le soir du coup d'État turc le 15 juillet dernier. Bonjour Sophie Nivelle-Cardinal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisatrice. On vous reçoit pour votre documentaire intitulé « Turquie, Made in Erdogan » dont on vient d'entendre un extrait. Vous avez essayé de comprendre dans ce documentaire ce qui explique le succès de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, qui sont ses soutiens, ses partisans. Depuis ce putsch manqué, le régime, on le sait, a procédé à de nombreux limogeages, à des arrestations. On parle de plus de 36 000 personnes qui ont été incarcérées aujourd'hui en Turquie. Votre documentaire s'ouvre sur les photos des personnes tuées lors du coup d'État, dont les portraits ont été placardés en très grand dans le métro Stamboliot. Il y a 200 personnes qui sont mortes cette nuit du putsch. Ils sont vus aujourd'hui comme des héros, en tout cas pour une certaine partie de la population. À l'instar de Safiye Bayat qu'on entendait, cette femme, c'est une héroïne aujourd'hui. Elle a reçu des récompenses, elle a reçu des lettres de félicitations, notamment du Premier ministre.
Oui, alors elle fait partie de ces Stambouliotes, mais pas seulement à Istanbul, de ces Turcs qui sont descendus dans la rue le vendredi, le soir du 15 juillet, quand il y a eu des chars, quand l'armée a tenté de prendre, enfin une partie de l'armée séditieuse a tenté de prendre le pouvoir. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'effectivement, c'est une mère de famille qui n'a rien de... enfin, c'est pas une combattante, elle n'a pas pris les armes, elle est juste descendue avec son téléphone portable. Et elle a marché sur le pont, il y avait des chars qui étaient à côté de chez elle et il y a des gens qui sont morts à côté d'elle. Et oui, c'est une héroïne. Alors son image a tourné sur les chaînes de télé parce qu'elle était seule face aux chars, donc il y a un petit côté Tiananmen. Ses motivations, c'est des motivations très basiques, c'est-à-dire qu'au début elle est sortie pour voir ce qui se passait et puis après elle a essayé de parler aux soldats et puis quand on la retrouve, elle nous dit qu'elle suivra Recep Tayyip Erdogan jusqu'à la mort. Et il y a un côté un peu effroyable, parce que c'est ce qu'on a vu place Taksim. Après le coup d'État, dès le lendemain, enfin, ce coup d'État, cette tentative de coup d'État a pas duré très longtemps, à peine quelques heures. Et donc le samedi soir, des foules sont arrivées place Taksim. Et ce qui était assez curieux, c'est qu'il y avait beaucoup de familles avec des enfants. Et tout ça paraissait bon enfant de l'extérieur. Et dès qu'on commençait à parler avec justement ces mères de famille, ce qui était effroyable, c'était de les entendre dire « Mais moi, je mourrais pour mon président et pour ma nation. » Alors je leur disais « Mais enfin, vous avez des enfants. » C'est quand même... Elle dit « Oui, oui, mais c'est pour leur avenir. » Et il y a un côté un peu... fanatique dans cette démarche.
Vous expliquez que l'AKP, c'est le parti qui compte le plus de militants de femmes au monde, plus de 4 millions de femmes. Comment le comprendre ? Pourquoi finalement ce parti est parvenu à séduire autant les femmes ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Turquie, alors peut-être qu'on préfère voir qu'une partie de la Turquie qui nous ressemble, mais la Turquie, c'est un pays... traditionnel, conservateur, religieux, et que ces femmes constituent une base électorale pour le président Erdogan, pour le parti de l'AKP. Et ce qu'on nous raconte, ce que raconte une des femmes qui a été à la tête de ces partis, de ces sections de femmes, comme on les appelle là-bas, c'est que l'AKP s'est
Myriam
intéressée...
Inat. On parlait de Myriam Inat.
Alors Myriam Inat, c'est la chef de section d'une section de femmes d'un quartier d'Istanbul où il y a 600 femmes qui sont actives. Alors elles font des bonnes œuvres, elles vont voir les personnes âgées, elles s'occupent des handicapés. Mais on a rencontré Özlem Özgin, qui est une des conseillères en chef du président Erdogan, qui a été à la tête de cette section de femmes pendant des années. Et elle nous explique que en fait ces femmes, l'AKP s'est intéressée à ces femmes sans éducation, ces femmes au foyer, ces femmes qui portent le voile. Alors qu'avant, en politique turque, finalement, c'était des femmes éduquées, laïques, dans le sens premier du terme. Et aujourd'hui, ces femmes constituent une véritable force électorale et une base électorale pour l'AKP et le président Erdogan.
Oui, parce qu'on pourrait penser que ce parti islamo-conservateur n'est pas forcément très moteur dans, disons, le mouvement d'émancipation des femmes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un certain nombre de décisions, justement, décisions politiques qui ont montré qu'il a participé de cette émancipation.
Alors, ça dépend ce que vous appelez, ce qu'on appelle l'émancipation. Il faut comprendre ça dans l'histoire de la Turquie, c'est-à-dire que la Turquie a eu, avec Atatürk, avec la République turque, une laïcité imposée aux Turcs pour se tourner, pour moderniser le pays et fonder la République turque. Et c'est vrai que ça a été ces dernières années, ces 10-20 dernières années, instrumentalisé sans aucun doute à des fins politiques. Et c'est-à-dire que, par exemple, depuis 2013, la loi a été votée et les femmes peuvent porter le voile dans les administrations publiques et les universités. Et ça, c'est... On peut considérer que c'est une émancipation, en tout cas du point de vue des femmes religieuses, le fait de pouvoir porter le voile dans ces institutions publiques, de pouvoir... être élu au Parlement et porter le voile, c'est une émancipation. Après, est-ce qu'on peut s'émanciper en tant que femme avec la religion ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'en Turquie, ça a été un véritable enjeu. Et par exemple, en 99, une femme est rentrée au Parlement voilée. Ça a créé un tollé. Elle a été arrêtée. Elle a dû quitter le pays. Enfin, donc, c'est un véritable enjeu dans la société turque. Et c'est vrai que aujourd'hui, les femmes voilées, il y a quelques mois, une nouvelle loi est passée. On peut être femme policière et voilée. Et tout ça est considéré du point de vue de l'électorat et de la base traditionnelle, de la partie traditionnelle de la société turque, comme une libération.
Alors Myriam Inat, justement, dont je parle, la militante de l'AKP, à la tête de cette section de femmes du parti dans un quartier d'Istanbul, un quartier d'ailleurs où l'AKP a remporté toutes les élections depuis son arrivée en 2002. On la voit rendre visite effectivement à un vieil homme, veuf, isolé, dans son appartement. C'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que l'action de cette femme, c'est plus proche d'une action sociale de proximité que d'une véritable action de militante politique.
Tout à fait, mais il y a un côté bonnes œuvres et les femmes. Mais après, elles sont aussi actives. Alors là, il n'y a pas d'élection en ce moment, mais aux dernières élections, les femmes, les militantes de l'AKP faisaient du porte-à-porte pour convaincre les gens d'aller voter pour Recep Tayyip Erdogan et pour l'AKP. Donc elles sont aussi très actives en période électorale. Là, en général, oui, elles s'occupent des personnes âgées. Donc il y a un côté bonnes œuvres. Mais ce qui n'est pas négligeable, en fait, et c'est là où...
Bonnes œuvres avec quand même la religion comme arme de conviction massive, quand même.
Oui, c'est un enjeu. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est on est là pour, ils sont pas là pour obtenir les voix directement de ce vieux monsieur, par exemple, ou de ces personnes âgées ou des handicapés, mais il faut qu'on prie, c'est pour obtenir les prières. Et ces prières, elle considère que c'est une arme très importante pour l'AKP. Donc oui, la religion a sans aucun doute beaucoup, beaucoup de place et un argument de poids au sein de l'électoral et pour le, au sein de l'électorat du président Erdogan et pour cet électorat, sans aucun doute.
Une autre femme que vous avez rencontrée, Melda Onur, ancienne députée, qui, elle, ne porte pas le voile. Et vous dites qu'elle est l'incarnation de ce qu'on appelle là-bas les Turcs blancs, c'est-à-dire ces Turcs tournés vers l'Occident et à qui on reproche d'avoir monopolisé finalement le pouvoir pendant des années. Parce que le succès de l'AKP, c'est aussi, d'une certaine manière, la revanche de ceux qui étaient aux marges du pouvoir et qui se sont débarrassés des anciennes élites. C'est aussi ça.
Ça fait une cette expression est apparue il y a une vingtaine d'années et elle qualifie ces Turcs effectivement tournés vers l'Occident, qui parlent souvent une langue étrangère, qui, alors c'est la Turquie d'Istanbul, c'est la Turquie d'Izmir. Le paradoxe, c'est qu'Istanbul, c'est aussi le fief de Recep Tayyip Erdogan.
Il en a été le maire pendant des années.
Voilà, et ça reste un bastion très important. D'ailleurs, c'est là qu'il est revenu au moment de la tentative de coup d'État. Il a mis plusieurs jours avant de retourner à la capitale Ankara. Mais effectivement, il y a cette revanche sociale qui est d'ailleurs revendiquée avec fierté par Recep Tayyip Erdogan, et ils opposent la Turquie noire et la Turquie blanche. Et la Turquie noire, c'est celle de l'Anatolie, c'est celle des pauvres, et qui est revendiquée avec fierté. Et donc on oppose comme ça, il y a une opposition entre ces deux Turquies, entre ces deux sociétés, qu'elles soient vraies ou non. Mais en tout cas, c'est comme ça que les Turcs la vivent.
Oui, c'est étonnant parce que finalement, cette Turquie noire qui soutiendrait Erdogan, quand on regarde les choses de près, vous parliez d'Istanbul, effectivement, Istanbul, c'est la vitrine finalement de la vision politique d'Erdogan. Et en réalité, c'est une ville terriblement tournée en réalité vers l'Europe. C'est une ville qui s'est beaucoup modernisée, qui d'un certain point de vue ressemble à une métropole européenne, avec des gratte-ciels, on pourrait se croire à la Défense, avec ce troisième pont du Bosphore, sur le Bosphore, qui a été construit récemment. Non mais c'est tout le paradoxe.
C'est gratte-ciels, ça serait aussi Dubaï, ça serait aussi le Golfe, ça représente aussi ça. Après... Je crois qu'on sur Istanbul, on veut voir, ou sur la Turquie, on veut souvent voir ce qui nous ressemble. Donc avant, il y avait des gouvernements laïcs, on pensait qu'ils nous ressemblaient, mais c'est quand même des gouvernements autoritaires. La Turquie n'a pas toujours été, était en phase de démocratisation, mais ce qui se passe actuellement, malheureusement, n'est pas très nouveau et se passait aussi avant l'AKP et avant que Recep Tayyip Erdogan soit président. Après, la Turquie et Istanbul, de ce qu'on en voit, ce serait Beyoğlu. Beyoğlu, c'est Istiklal, c'est Taksim, c'est une partie qui nous semble très occidentalisée, mais Istanbul, c'est une mégalopole de près de 15 millions de personnes qui s'est transformée avec le président, enfin quand Erdogan était maire. Et vous allez dans certains quartiers de grandes banlieues, vous avez aussi la Turquie a connu une période de prospérité économique depuis 10-15 ans, mais ça a été aussi un pays très pauvre, où il y a eu énormément d'exodes. Donc on venait dans la grande ville d'Istanbul pour gagner sa vie. Il y a des banlieues qui étaient des bidonvilles jusqu'à pas si longtemps, il n'y avait pas d'eau courante. On a du mal à s'imaginer ça. Alors là, oui, c'est moderne. Les gratte-ciels, c'est plutôt une identité arabe du Golfe que la Défense. Parfois j'ai l'impression, enfin on a souvent l'impression qu'on colle nous notre grille de lecture et on veut bien voir que ce qu'on veut voir plutôt que de voir cette complexité de la société turque avec ce qu'elle a de ce qui nous dérange peut-être plus, c'est-à-dire de traditionnel, de religieux, mais c'est une société conservatrice et traditionnelle et religieuse.
Parlons peut-être un peu de liberté de la presse, parce qu'il faut rappeler aujourd'hui qu'il y a des dizaines de journalistes qui ont été arrêtés. On pense notamment à l'ancien rédacteur en chef de Cumhuriyet, Can Dündar, qu'on avait reçu notamment dans cette émission, qui aujourd'hui a été forcé à l'exil. On pense également à Kadri Gürsel, que j'avais reçu à ce même micro dans cette émission il y a quelques temps, quelques années. Les journalistes, évidemment, sont littéralement muselés, en tout cas pour certains, parce qu'il y en a aussi. Et vous rencontrez par exemple des journalistes de Yeni Shafa, qui est l'un des groupes d'organes de presse qui défendent le plus l'AKP. Ils sont sur une ligne résolument occidentale. On défend par exemple l'idée selon laquelle ce coup d'État aurait été organisé, orchestré par les Occidentaux. Et c'est des organes dans lesquels on relaie et on produit toutes les thèses complotistes les plus farfelues.
Mais elles sont un écho à la rhétorique du gouvernement. Après, ces dernières années, il y a eu une mise sous coupe et des médias d'opposition qui ont été rachetés par des grands groupes, par des proches du pouvoir. Des centaines de journalistes ont été licenciés avant là d'être emprisonnés depuis le coup d'État. Donc aujourd'hui, on estime que plus de 80-90% des médias sont contrôlés ou économiquement ou directement par des proches du pouvoir. Donc les médias d'opposition malheureusement ont été vidés en fait de leur sens, de leur capacité de nuisance, et ça a été une des forces du gouvernement. Après, il reste une des grandes peurs du pouvoir aujourd'hui turc, ce sont les médias, ce sont les réseaux sociaux. Donc il est parfois plus problématique de publier quelque chose sur Twitter ou Facebook que dans les médias, et c'est d'ailleurs, ça fait tellement peur au pouvoir que dès qu'il se passe quelque chose, ces réseaux, Facebook, tout ça est coupé, quoi.
Ouais, et dans ces médias pro-gouvernement, on voit une véritable posture de revanche. Et pour l'illustrer, il y a un passage absolument étonnant dans votre documentaire. C'est une matinale télévisée, c'est l'une des plus regardées du pays. Et on voit le présentateur qui s'en prend aux croisés aux sionistes sur fond de Metter, qui est ce chant ottoman. Ça, c'est absolument sidérant comme image.
Et en plus, ce jour-là, alors encore une fois, ce n'est qu'un écho à cette rhétorique du pouvoir qui utilise régulièrement ces termes, malheureusement. Et ce jour-là, la veille, le président Erdogan avait reçu une assemblée, on va dire, de mortars, donc de représentants de quartier, et avait critiqué, mais plus que critiqué, le traité de Lausanne, qui est le traité qui vient après le traité de Sèvres. Donc on revient 100 ans en arrière, et c'était la une de tous les journaux, et dans des termes, et donc ils critiquaient l'Occident en disant qu'ils veulent de nouveau, l'Occident veut de nouveau nous faire taire, veut de nouveau nous imposer des choses indignes. Donc on est dans cette rhétorique-là, dans une rhétorique nationaliste, xénophobe, résolument anti-occidentale.
Vous disiez, Sophie Nivelle-Cardinal, que la Turquie était complexe. Et évidemment, il y a une chose qui est très étonnante aussi, c'est qu'on trouve également, chez les soutiens de l'AKP, les Kurdes, qui font l'objet d'une répression, on le sait, absolument terrible de la part du régime. Vous êtes rendu, par exemple, dans un petit village d'Anatolie, loin d'Istanbul, loin d'Ankara, et le chef du village, il vous dit, lui, qu'il aime Erdogan, qu'il soutient même sa guerre contre le PKK. Ça, c'est étonnant aussi. Ça dit de la complexité de la Turquie.
Voilà, on est dans une région où il y a des clans, et les clans, aux dernières élections, notamment novembre 2015, quand il y a eu des élections législatives partielles, certains clans ont appelé à voter l'AKP, ce qui a permis, ça a été un des facteurs qui a permis le parti de Recep Tayyip Erdogan de récupérer la majorité absolue. Une majorité, pardon, pas la majorité absolue. Mais oui, encore une fois, on est dans des régions très conservatrices, et la répression des Kurdes en Turquie, elle s'attaque à la répression du PKK, du parti. Donc et il y a des Kurdes, il y a aussi des partis extrêmement religieux chez les Kurdes, et les Kurdes, encore une fois, on en a une vision très tronquée, parce qu'on veut y voir cette rébellion avec des femmes qui se battent, mais la réalité, c'est que c'est une société, les Kurdes, c'est d'abord une société traditionnelle, conservatrice, religieuse, et là, ces chefs de clan, c'est parce qu'ils nous disent, on est d'abord pieux et conservateurs, donc nous, ça nous correspond, ces idées-là, et par ailleurs, encore une fois, la prospérité économique, l'AKP a apporté, et ça c'est associé avec le président Erdogan, a apporté par exemple dans ces villages au fond de nulle part de l'eau, des routes, et donc il y a une forme de clientélisme et un retour donc sur investissement qui est ils nous ont très très bien traités, ils nous ont apporté tout ça, il n'y a pas de raison qu'on aille voir ailleurs, et pour l'instant nous on est très contents de tous les services qu'ils nous apportent.
Réaction peut-être ici en plateau, Marc Sémo, Yves Aubin de la Messusière, Ziad Majed que je salue qui vient d'arriver, peut-être Marc Sémo, vous qui connaissez très très bien la Turquie.
Je pense que cette démarche de ce film est très intéressante parce que comme ça, on comprend pourquoi Erdogan réussit, dès le premier tour, en août 2014, d'être élu président de la République aux premières élections de la présidence au suffrage universel. C'est-à-dire, il y a en Turquie un bloc conservateur qui fait entre 50 et 60% de la population, si on y rajoute l'extrême droite nationaliste du MHP, qui est majoritaire. Et finalement, la Turquie blanche, la Turquie laïque, c'est dans le meilleur des cas 30 à 35%. Ils n'ont jamais, sauf à l'exception une fois de Bülent Ecevit en jouant sur la carte nationaliste à fond, elle n'a jamais pu électoralement faire plus. Et c'est ce qui explique pourquoi. Alors ça se recompose à l'intérieur de ce bloc de la droite conservatrice religieuse, mais il y a ce bloc de la droite conservatrice religieuse. Et effectivement, raconter cette autre Turquie, c'est comprendre pourquoi ce pouvoir, au-delà du contrôle sur les médias, de la dérive autoritaire, etc., ce pouvoir gagne les élections et réélu. Les élections ne sont pas truquées en Turquie, malheureusement, d'une certaine façon.
Et c'était la démarche, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup, beaucoup parler d'Erdogan, sauf qu'il y a des gens qui soutiennent Erdogan, il y a des gens qui votent pour lui, il a été élu et qu'il fallait,
il faut aussi raconter ça. C'est extraordinaire aujourd'hui,
d'autant
plus depuis le coup d'État manqué. Yves Aubin de la Messisière, vous voulez réagir, ajouter quelque chose?
Oui, donc ce qui est très, très intéressant, ce que vous disiez, c'est le retour de l'histoire, c'est-à-dire on revient... donc aux accords de Lausanne, au partage de l'Empire ottoman, et donc cette volonté, en quelque sorte, d'effacer cette injustice de l'histoire que l'on retrouve en Syrie. Et d'ailleurs, ce qui a fait en partie le succès de l'État islamique lorsqu'il a effacé symboliquement les frontières dites Sykes-Picot, alors que ce n'était pas tout à fait les frontières de l'époque, enfin donc de cette injustice de l'histoire. Donc on trouve ce retour un peu partout, d'ailleurs on le retrouve aussi chez Poutine pour d'autres raisons. Et ce que vous disiez très intéressant concernant les Kurdes, cette division des Kurdes, c'est pour ça on peut se poser la question, disons, d'une véritable sentiment national kurde partagé, alors à la fois en Turquie, on le voit en Syrie, on le voit en Irak et on le voit ailleurs.
Ziad Majed, avant de passer à la Syrie.
Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment par rapport à la complexité de la société turque et par rapport aux raccourcis qu'on a et aux logiciels parfois qu'on applique sur ce pays. Et juste, je signale qu'il y a de plus en plus, à mon avis, un sentiment de colère aussi et de frustration chez certaines catégories de la société turque suite au coup d'État manqué, où ils ont senti qu'en Occident, une partie des décideurs comme des médias étaient un peu déçu que le coup d'État n'a pas fonctionné. Et je pense que cela a laissé des traces politiques que Erdogan, évidemment, il essaie de profiter de cela pour maintenir sa pression et son contrôle des médias comme de la société.
Merci beaucoup, Sophie Nivelle-Cardinal, d'être passée dans nos studios. Je rappelle votre documentaire Turquie, Medine Erdogan. Redites-moi la date de diffusion.
Demain, voilà. 18h35 sur Arte.
Merci beaucoup d'être passée. Voilà, on se quitte. Quitte la Turquie avec cette chanson qui était une chanson de la campagne d'Erdogan en 2014 lorsqu'il a été élu président. On va se tourner du côté de la Turquie après la reprise de la vieille ville d'Alep. Quelle guerre Bachar al-Assad a-t-il gagné?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, on va se tourner vers la Syrie. Effectivement, après la reprise de la vieille ville d'Alep, une victoire du régime se dessine de plus en plus précisément maintenant.
Ça fait trois mois qu'on a fait nos affaires. Et là, on a eu l'occasion et on s'est enfui.
C'est loin d'ici, votre quartier?
Il y a à peu près une heure de marche d'ici. La nuit dernière, il y a eu beaucoup de combats. Ils bombardaient les rebelles et eux, ils se retiraient. À la fin, ils commençaient à se retirer, les rebelles.
Tout le monde tirait. Je prenais mes enfants et j'allais au rez-de-chaussée avec ma voisine et mes filles.
Les rebelles, ils se retirent, la ligne de front, ils la vident. Il y a même des rebelles qui se rendent à l'État.
Est-ce qu'il y a encore des civils dans votre quartier?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de civils à l'intérieur. Mais si l'armée continue à faire sortir les civils, ils vont tous sortir.
Extrait d'un reportage de Valérie Crova de la rédaction de France Culture dans Alep Ouest hier, alors que les rebelles avaient appelé mercredi à la fin des frappes afin de permettre aux civils d'échapper au déluge de feu qui s'abat depuis plusieurs semaines. Bachar al-Assad s'était empressé de rejeter l'idée d'un cessez-le-feu. Et pourtant, hier, le ministre russe des Affaires étrangères a décrété une interruption des frappes. Les opérations de combat, disait-il, de l'armée syrienne ont été interrompues dans l'est d'Alep parce qu'il y a une grande opération en cours qui est l'évacuation des civils, a dit Sergueï Lavrov. Pourquoi cet arrêt des violences qui avaient été refusées jusqu'ici? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quel avenir pour la Syrie? Est-ce qu'elle peut se relever? Est-ce qu'on peut reprendre comme avant, finalement? Yves Aubin de la Messisière, Ziad Majed sont nos invités, et Marc Semo du Monde, comme chaque vendredi. Marc, Alep, c'était vraiment le symbole de la lutte contre le régime. La ville est longtemps restée, bien sûr, un bastion que les forces loyalistes ne parvenaient pas à reprendre. Là, Alep est quasiment tombée. Les rebelles sont confinés dans deux ou trois quartiers. Cette reconquête, évidemment, elle apparaît comme un tournant dans ce conflit. Aujourd'hui, on a l'impression d'entrevoir le début, finalement, d'une victoire pour Bachar, ce qui rend d'ailleurs assez étonnant l'annonce d'une trêve de la part de Moscou, hein, Marc.
Et peut-être pas si étonnant. Ils essaient de vider la ville. Et les témoignages que l'on entend, notamment sur France Inter, racontent comment ces civils vont vers l'aéroport et il y a une sélection. Les hommes, jeunes d'un côté, que l'on prend à part, que l'on amène vers les centres d'interrogatoire et de fêtes de torture, notamment ceux de l'armée de l'air. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est, comme Srebrenica, un crime qui est en train de se commettre sous les yeux d'une communauté internationale impuissante et plus spécifiquement d'un Occident impuissant. Jamais depuis la guerre froide, l'Occident n'avait été à ce point impuissant face à ce qu'il a proclamé être, ses valeurs, face à ce qu'il a proclamé être, ses engagements. On est dans cette situation où la Russie a réussi, en un an, à totalement rechanger la donne, avec extrêmement peu de moyens. Elle a mis 5000 hommes en tout sur le terrain, dont la plupart sont d'ailleurs occupés à garder les bases, très peu de sorties aériennes, une dizaine à une quinzaine par jour. En même temps, elle verrouille totalement le ciel syrien. Il n'y a plus aucune possibilité d'intervention d'une manière ou d'une autre des Occidentaux, de largage humanitaire et autres. Donc, Poutine a réussi ce basculement en profitant des atermoiements de l'administration Obama. Et jamais, comme cette fois-ci, alors Obama s'est justifié de son refus en août 2013 de mener les frappes qu'il avait promises au cas où le régime utiliserait l'arme chimique, le gaz sarin contre sa propre population. Alors il a dit qu'il n'y avait pas d'alternative. Ensuite, il a dit que c'était peut-être limiter les dégâts, on démantelait l'arsenal chimique syrien grâce à un accord international. Mais à partir de là, effectivement, il a ouvert une autoroute pour l'intervention russe. On est dans une situation aujourd'hui où le quoi faire, de fait, on ne peut rien faire. Et on est dans une situation où, effectivement, le régime est en passe de gagner la guerre, mais on sait déjà qu'il ne va pas pouvoir contrôler ces territoires qu'il reconquiert et que la Syrie va rester non seulement un foyer d'un djihadisme toujours plus radical, mais aussi une déstabilisation générale de la région et de l'Europe, parce qu'elle va exporter ses terroristes. Il y a les réfugiés qui vont continuer à venir, et on est parti pour une guerre qui risque de durer encore des années, des années et des années.
Yves Aubin de la Messuzière, en début de semaine, la Russie et la Chine ont mis leur veto à ce projet de résolution du Conseil de sécurité exigeant une trêve de 7 jours. Comment se fait-il que hier, finalement, la Russie ait décidé cette trêve ?
Bien parce qu'elle veut contrôler l'agenda, à la fois l'agenda militaire et l'agenda diplomatique. Mais ce n'est pas la première fois que la Russie a annoncé une trêve. Il y a eu plusieurs trêves qui ont été rompues. Évidemment, la Russie et Moscou fait porter la responsabilité sur la rébellion, peut-être en partie, mais la principale responsabilité, c'est le régime de Bachar al-Assad. Là, tout à l'heure, je regardais là sur le net, que, alors même que la Russie a annoncé cette trêve pour des raisons, disons, humanitaires, pour permettre l'évacuation des civils. Mais je pense aussi que l'idée, parce qu'il y a des discussions qui vont se tenir avec les Américains demain à Genève, c'est pour évacuer aussi ce qu'il reste de la rébellion. Eh bien, cette trêve n'est pas respectée par Bachar al-Assad. Il s'agissait bien d'une trêve des bombardements aériens et des bombardements aussi d'artillerie. Or, ça a repris avec une densité extrêmement forte il y a quelques heures. Alors le problème est de savoir quel est le jeu effectivement très ambigu de Poutine. Et aussi, je crois que Bachar al-Assad est dans son enfermement parce que lui, l'objectif, c'est Alep et au-delà de reconquérir l'ensemble du territoire.
Ziad Majed, évacuer le reste de la rébellion. Cette semaine, il y a une vidéo qui a été publiée sur laquelle on voit des unités spéciales tchétchènes s'apprêter à partir pour la Syrie. C'est ce que raconte en tout cas la correspondante du Monde, Isabelle Mandreau. Qui est à Moscou. Il s'agit donc de Tchétchènes qui seraient volontaires et qui vont être chargés d'effectuer un travail de mission police militaire. C'est le dernier volet de la stratégie d'éradication de l'opposition à Alep.
Oui, en fait, il faut savoir que ce n'est pas le régime Assad qui récupère Alep d'une manière directe. Il y a aujourd'hui 8 à 10 000 combattants du Hezbollah libanais. Il y a presque 10 000 combattants du mouvement Nujaba irakien et d'autres mouvements chiites irakiens. Il y a la brigade Fatimiyoun des Hazara afghans. Il y a 200 officiers iraniens qui dirigent directement les combats dans la ville d'Alep. Et il y a l'aviation russe. Donc, de plus en plus, la situation aujourd'hui semble à une occupation étrangère qui prend des caractéristiques et des traits confessionnels de la Syrie. Bachar al-Assad avait reconnu lui-même fin juin 2015 qu'il n'avait plus les ressources humaines pour continuer à se battre sur plusieurs fronts. C'était 3 mois avant l'intervention russe. Donc la Russie, en effectuant des milliers de frappes aériennes, a réussi à modifier le rapport de force. Le régime qui avait à peu près 20% du territoire a reconquis un territoire stratégique, donc sur l'axe Damas-Alep, qui est très important. Nous ne sommes pas proches de la fin de ce conflit, même s'il y a un changement dans le rapport de force, parce que pour beaucoup de Syriens, il va s'agir de résister maintenant à une occupation étrangère.
Mais la rébellion anti-Assad a encore les moyens de résister ?
Elle n'a pas suffisamment de moyens pour résister, mais dans ce genre de situation aussi, il peut y avoir d'autres alternatives, y compris la guérilla, y compris les voitures piégées, y compris les opérations très rapides. Et il faut savoir aussi qu'il y a encore beaucoup de poches de cette rébellion-là, que ce soit au sud du pays, non loin de la frontière jordanienne, fermée depuis...
Quand vous dites cette rébellion-là, c'est celle qu'on qualifie de rebelle modérée ?
Oui, moi le terme modéré, honnêtement, ne me concerne pas trop et ne concerne pas les Syriens. C'est un terme européen, disons. Il y a un grand groupe de rebelles. Certains sont islamistes, d'autres ne le sont pas. Certains sont pieux, la majorité sont pieux. Il y a ce qui reste de l'armée syrienne libre. Il y a une grande alliance islamiste également. Je parle des rebelles qui ne sont pas djihadistes, donc qui sont concernés par la cause nationale syrienne, avec un agenda que certains Syriens n'approuvent pas, mais ils sont concernés par la territorialité et la temporalité du conflit syrien, et non pas par le djihad ou par n'importe quel conflit qui peut avoir lieu sur n'importe quel territoire. Donc, ils ont des poches au sud, ils ont la grande région de Idlib, où il y a aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers de combattants, et il y a beaucoup de civils aussi qui fuient Alep et qui avaient été évacués de Daraya et de Matamiyé autour de Damas, qui se retrouvent à Idlib également. Donc, il y a beaucoup de régions. Et puis, il y a l'opération turque, qu'il ne faut pas oublier, qui a annoncé aujourd'hui un début d'offensive vers la ville de Al-Bab, qui est une ville stratégique entre Alep et Raqqa, avec l'armée syrienne libre là-bas qui se déploie. Il y a évidemment la question kurde qui va poser de plus en plus de défis et de questions. Et puis, il y a tout l'Est, toujours occupé par Daesh, qui a progressé hier dans la région de Homs vers
Palmyre.
Exactement, encore une fois. Donc, Assad n'a pas les moyens lui-même et son régime de se battre. Ça va dépendre de plus en plus d'une occupation étrangère, y compris maintenant les Tchétchènes qui arrivent, y compris 5000 mercenaires russes qui sont sur place. Et cela va changer la configuration du conflit. Et tout à fait d'accord avec ce que Marc Simon disait, il y aura beaucoup plus de menaces sécuritaires, contrairement à ce que disent les pro-russes en France ou en Europe. Plus Bachar al-Assad reste au pouvoir, plus la déstabilisation va être généralisée.
Yves Aubin de la Messuzière et puis Marc Semo. Yves Aubin de la Messuzière.
Oui, ce que je tout à fait d'accord sur cette analyse, là, développée à la fois par Marc Semo et Ziad Majed, concernant un pays, la Syrie, qui a pratiquement perdu toutes les caractéristiques et les éléments de la souveraineté. Vous dites que c'est un pays sous occupation, mais ceci donc est extrêmement clair, s'agissant de l'offensive qui a été menée par Alep, où l'armée syrienne en tant que telle apparaissait assez peu, sauf qu'elle s'est désengagée. La 4e brigade, qui est conduite par Maher, le frère de Bachar el-Assad, était peut-être du côté de Damas et du côté de Palmyre, donc se déporte vers Alep, ce qui permet à l'État islamique d'avancer. Mais moi, j'y vois d'autres raisons. C'est-à-dire il y a une très bonne coordination maintenant des forces donc qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad, à la fois les gardiens de la révolution, les Pasdaran, et aussi, bien entendu, les Russes. Ce sont eux qui conduisent la coordination. Par contre, du côté de la rébellion, puisqu'il y a une fragmentation extraordinaire, ce sont des combattants, effectivement, vous dites, non djihadistes, hein, n'ont rien à voir avec l'État islamique, mais sauf qu'il y a peut-être le front al-Nusra, hein, qui peut être présent, une absence de coordination, et aussi, il faut le reconnaître, que le contexte est très favorable pour le régime de Bachar el-Assad, parce qu'on voit les acteurs régionaux et internationaux, là on a parlé de ce désengagement américain, et voire aussi d'une Europe plutôt silencieuse et en retrait, mais les acteurs qui soutenaient la rébellion régionaux, c'est-à-dire la Turquie, c'est-à-dire c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, eh bien, on a l'impression qu'ils s'accommodent maintenant du maintien, disons, au pouvoir du régime de Bachar el-Assad. Ce qui est étonnant dans les combats qui se déroulent à Alep, c'est que cette rébellion qui recevait des armements il y a encore une année ou deux années de la part de ces trois pays, j'ai désigné des pays sunnites, et apparemment, donc, il y a un manque de matériel, y compris pour, lutter contre les chars qui sont dans la ville, alors qu'autrefois, quand il y avait des combats dans les différentes villes, et notamment à Alep, cette rébellion avait les moyens militaires de pouvoir résister. Maintenant, apparemment, donc il y a un sentiment d'abandon de l'Occident, mais d'abandon aussi de ces puissances régionales arabes.
Marc Semo.
Justement, un des éléments, est-ce que ce n'est pas justement, d'une certaine façon, la vassalisation de la Turquie à la politique de Poutine ? C'est-à-dire la Turquie qui avait demandé depuis des années aux Occidentaux la création d'une zone de sécurité, à la fois pour fixer les réfugiés, pour, et qui serait un peu une base arrière pour les forces de l'armée syrienne libre et équivalente, l'insurrection non djihadiste, finalement ne l'a jamais obtenue. Et ce sont les Russes qui lui ont donné, il y a quelques mois, cette zone de sécurité, en disant vous pouvez intervenir au nord. De fait, jamais l'armée turque n'aurait pu intervenir au nord sans l'accord de la Russie. Et le prix à payer, même si ça n'a jamais été dit, on peut effectivement légitimement s'interroger si le prix à payer, ça n'a pas été la chute d'Alep, notamment aussi parce que un certain nombre des formations de l'armée syrienne libre ont été exfiltrées de la zone d'Alep pour aller se battre aux côtés des forces équipées par les Turcs pour la reprise d'Al-Bab et la lutte que mène la Turquie pour bloquer une partie de la frontière et éviter une continuité de la zone kurde.
Mais là, c'est là où... Marc, c'est là où on voit
Sophie
que...
Sophie Nivelle-Cardinal qui est restée avec nous.
Le conflit syrien a échappé les enjeux ne sont plus tellement syriens, parce que pourquoi la Turquie intervient, c'est il y a cette bande au nord et c'est impossible que le PKK la tienne. Donc là, ça ne concerne plus la chute de Bachar al-Assad, ça ne concerne plus l'État islamique, comme ce qui se passe actuellement à Alep.
Ziad Najel.
En fait, la frontière jordanienne est fermée depuis avril 2016, donc il n'y a plus de livraison d'armes, ni de munitions, ni d'aide au niveau médical, au niveau alimentaire, qui rentre de la frontière jordanienne. La frontière turque a été fermée en août 2016, juste après l'offensive pour briser le siège de la ville. Et ce que vous disiez par rapport au missile Tau, qui était présent, il n'y a plus de livraison depuis. Et tout à fait d'accord par rapport à cette idée de la fragmentation de l'opposition, qui fait que chaque chef de village ou chaque responsable militaire a toujours peur de ce qui va se passer après. Donc il ne veut pas utiliser les munitions qu'il a avant que sa région, sa propre région, soit occupée, parce qu'il a peur qu'il n'y aurait pas de ravitaillement et de soutien à l'extérieur. L'Arabie saoudite a été piégée au Yémen, et ça continue. Donc ils font la guerre là-bas et ils ont probablement moins de moyens pour soutenir l'opposition. Le Qatar est en retrait depuis quelque temps. La Turquie, je pense qu'il y a eu peut-être pas un accord direct, mais pour ne pas permettre aux Kurdes cette continuité territoriale entre Afrin, Kobani et Hasake au Jazeera, et pour repousser l'État islamique et imposer une zone tampon que contrôle l'armée syrienne libre, probablement ils ont indirectement lâché Alep, c'est-à-dire plus de munitions, plus de soutien aux combattants de la ville, qui ont été bombardés d'une manière folle, intensive, russe, du régime. Le chlore a été utilisé, y compris ce matin. Toutes sortes de bombes anti-bunkers pour détruire les hôpitaux, les boulangeries, l'infrastructure, afin de rendre la vie impossible. Et je pense qu'il y a eu une série d'erreurs par les acteurs occidentaux et les acteurs régionaux. Il aurait suffi de permettre à l'opposition soit une zone tampon ou une zone d'exclusion aérienne en 2012, soit, si là n'était pas possible, des missiles sol-air. Bien avant la montée en puissance de Nusra, bien avant l'apparition de Daesh.
Il aurait fallu armer cette opposition.
Bien sûr.
Il y a eu beaucoup de débats, notamment du côté des États-Unis à un moment, et finalement
exactement.
Ça s'est pas fait.
Et c'est pas seulement pour des raisons militaires.
Pourquoi ?
Même cela aurait pu permettre un laboratoire politique, une alternative
pourquoi
politique.
Pourquoi on l'a pas fait, vous pensez ?
François Burga
Obama
a parlé de...
François Burga, qui intervenait cette semaine dans La Croix, disait qu'en réalité c'est parce qu'on a considéré que cette opposition qu'on dit modérée n'était pas suffisamment modérée, qu'elle n'était pas suffisamment laïque, c'est la formule qu'il a utilisée.
Oui, dans un sens, c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient peur un peu des barbes qui apparaissaient, du vocabulaire, du parler musulman, comme le qualifie François Burga. Mais il y a aussi ce que les Américains disaient d'un game changer, qu'on a peur aussi que ces missiles ou ces anti-air soient dans les mains des méchants, entre guillemets, bien qu'on sait qu'il y a une nouvelle génération d'armes qui fonctionne différemment. Mais il n'y a pas eu une volonté et une fermeté qui a permis aux Iraniens et aux Russes de devenir encore plus fermes dans leur soutien du régime.
Yves Aubin de la Messuzière, il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre. Effectivement, Marc Sémo rappelait tout à l'heure cette fameuse reculade de Barack Obama à l'été 2013, qui a fait qu'effectivement la Russie est devenue le maître du jeu dans ce conflit syrien. Il y a évidemment septembre 2015 où l'aviation rentre aussi en piste. Tout ça fait que Moscou a pu engranger des victoires diplomatiques. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle peut en faire ? C'est-à-dire, comment transformer le succès diplomatique en quelque chose d'autre ? Comment tirer les bénéfices de ce succès pour Moscou ?
Alors, bon, certains pensent qu'il y a un scénario qui serait le scénario, enfin, dans cette tragédie, malgré tout, vertueux. C'est-à-dire, une fois constatée la chute d'Alep, que Poutine, qui veut donc contrôler l'agenda militaire, il l'a contrôlé. Il a permis d'abord de sauver le régime de Bachar el-Assad et maintenant d'assurer des succès malgré tout, même si ce n'est pas l'armée de Bachar el-Assad et qui peut maintenant rentrer dans Alep. Et maintenant, c'est contrôler l'agenda diplomatique. Et il y a des discussions, d'ailleurs, entre Américains. Contrairement à ce qu'on peut penser, les États-Unis ne sont pas complètement désengagés. Ils seront aussi dans la situation, dans la solution politique. Donc c'est un face-à-face Moscou-Washington. Et donc, probablement, ce que l'on peut penser, c'est qu'une fois la chute d'Alep constatée, qu'il y ait là la recherche d'une solution diplomatique. Mais pour ce faire, il faudra que Moscou torde le bras à Bachar el-Assad, parce qu'il ne faut pas oublier, s'il y a un acteur principal qui est la Russie actuellement, il faut penser à l'Iran. Et que Téhéran n'est pas forcément en accord avec...
Avec Moscou, sur
ce avec point. Moscou. C'est-à-dire, à quel prix, le maintien de Bachar el-Assad, le maintien de son clan, et peut-être que la Russie, qui l'avait imaginé il y a quelques années, quand... Poutine disait « Nous ne sommes pas mariés à Bachar el-Assad ». On avait eu l'impression, et c'était peut-être l'intention dans un moment, de se dire « L'essentiel, c'est de maintenir le régime, de maintenir une certaine continuité ». Ce qu'acceptaient d'ailleurs les Occidentaux. Pourquoi ? C'est pour éviter le scénario à l'irakienne. Quand il y a eu la dissolution de l'armée par le proconsul Paul Bremer au lendemain de l'occupation par les États-Unis de l'Irak, dissolution de l'armée et dissolution du Parti Basque, on voit dans quelle situation s'est trouvé l'Irak. Et donc il faut éviter que cette situation se retrouve. Mais de toute façon, ce sera extrêmement compliqué en raison, comme vous disiez, de la fragmentation des différentes oppositions et puis aussi l'État islamique qui, on a l'impression, reprend des forces. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à cette avancée vers Palmyre.
Oui. Marc Semo.
Oui, le régime dit on veut reconquérir l'intégralité du territoire. Les Russes disent, assez clairement, ils le disaient il y a quelques mois, ou même ouvertement, non. Est-ce que le régime, aujourd'hui, a les moyens d'obliger les Russes à les suivre dans cette reconquête? Ou bien est-ce que sinon, on est parti pour une espèce de bosnisation de la Syrie, c'est-à-dire avec une zone kurde, une vaste zone régime qui serait la Syrie utile, des espèces de bantoustans islamistes, voire djihadistes.
Je pense que la stratégie russe qui a fonctionné, vu les hésitations et le retrait occidental, voire régional, c'était de rendre le territoire syrien fragmenté également. Il y a le régime qui contrôle aujourd'hui les grandes villes et l'axe Deraa, Damas, Homs, Hama, Alep, et puis le littoral. Il y a la région de Idlib, qui est une grande région vaste avec une grande population civile et des dizaines de milliers de combattants, mais où le front al-Nusra est très puissant. Puis il y a des poches de l'opposition qui sont encerclées, isolées, assiégées. Et le régime et ses alliés grignotent du terrain. Il y a la région kurde. Et il y a l'est du pays qui est contrôlé par l'État islamique. Les Russes, dans une configuration pareille, avec la Turquie également, aujourd'hui un nouveau paramètre, la zone qu'ils sont en train d'élargir autour de l'Euphrate au nord. Dans une configuration pareille, les Russes disent que voilà, il n'y a plus d'alternative à Bachar el-Assad. Soit ils restent au pouvoir, on garde le régime, on crée une réconciliation. Et ils ont remplacé d'ailleurs dans le lexique « transition ». Ce que stipulait Genève 1 et le processus politique par réconciliation et coalition nationale. Ils ont des opposants qui travaillent pour eux d'ailleurs et qui se prétendent opposants en même temps. Mais là, il peut y avoir quelques contradictions avec les Iraniens qui soutiennent le régime pour d'autres raisons stratégiques par rapport à cette expansion de la politique iranienne, par rapport à la question idéologique et par rapport au pont vers le Liban du Hezbollah. Donc pour d'autres considérations, cela peut créer quelques contradictions entre les deux capitales soutenant du régime. Mais le régime lui-même n'a plus les moyens d'aller plus loin. Soit l'Iran va mobiliser plus de troupes, si les Russes acceptent, et donc eux, ils vont continuer à couvrir au niveau aérien. Soit il va y avoir des négociations de nouveau pour trouver un compromis. Mais un compromis qui, si jamais il préserve Bachar el-Assad, à mon avis, ne va pas résoudre les problèmes, y compris sur le terrain. La lutte contre Assad va continuer. La question des réfugiés n'aura pas de solution. Il y a aujourd'hui 6 millions de Syriens qui sont à l'extérieur du pays. Bachar el-Assad lui-même disait que c'est mieux pour la Syrie et pour le tissu social syrien que ces gens soient à l'extérieur, faisant allusion au fait qu'ils sont à majorité, à grande majorité sunnite, de classe sociale défavorisée. Donc ça va rien résoudre. En plus, si jamais il y a une impunité après 250 000 morts civils, après 10 prisonniers qui meurent chaque jour sous la torture dans les geôles du régime Assad. Après l'usage de l'arme chimique, après le chlore, après les barils explosifs, quel message envoie-t-on au niveau de la communauté internationale au peuple syrien ? Qu'il n'est pas protégé par le droit international, que la vie des Syriens ne compte pas, et qu'est-ce qui est de mieux pour le nihilisme guerrier, pour le terrorisme, que ce genre d'argument qui est à la fois raciste, qui méprise les musulmans syriens, qui d'ailleurs on ne parle que de minorités parfois, et on s'excite pour leur protection, qui est nécessaire, mais qui ne veut pas dire qu'on laisse anéantir et on laisse un génocide se faire contre la majorité. Donc tout ce genre d'arguments, de logique, va mener à un pourrissement de la situation encore et encore, ce qui ne va pas résoudre les problèmes ni de la Syrie ni de la région.
Je reviens sur le bras de fer entre Washington et Moscou que vous évoquiez tout à l'heure, Yves Aubin de la Messuizière. On sait que l'objectif de l'armée syrienne, c'est de reprendre, même si on l'a dit, on est dans une situation en réalité d'occupation étrangère, mais l'objectif c'est quand même de reprendre totalement Alep avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ça sera le 20 janvier prochain. L'armée syrienne d'ailleurs a fait savoir, a fait passer ce message. Pour quelles raisons, en quelques mots, et de façon générale, que pourrait changer l'arrivée du nouveau président dont on a vu récemment quelques nominations importantes dans le rapport de force diplomatique entre Moscou et Washington ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Dans ce dossier syrien, bien sûr.
Oui, alors il n'a pas encore pris ses fonctions. Il a eu, pendant sa campagne, des propos qui montraient bien son attachement, à une bonne relation avec Poutine, contrairement à Barack Obama, et laissant entendre qu'après tout, on peut s'accommoder des régimes tels que le régime de Damas. Mais il y a quand même le principe de réalité qui va l'emporter lorsqu'il sera effectivement au mois de janvier au pouvoir. Et je pense que c'est un homme plutôt pragmatique. Il va faire des deals, il verra bien quel est le rapport des forces et que peut apporter les États-Unis. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de doute par rapport à Hillary Clinton, c'était une mauvaise nouvelle pour la gestion de ce dossier. Et notamment pour, effectivement, les quelques espoirs de voir une transition ou un changement politique en Syrie. Et donc, il n'y aura pas un engagement, il y aura une forme de continuité, je pense, malgré tout, c'est-à-dire que les États-Unis seront toujours présents sur ce dossier, parce que on peut pas séparer complètement le dossier syrien du dossier irakien, où là, les États-Unis sont extrêmement présents dans les frappes aériennes contre Daesh. C'est la priorité pour Trump. Ce sera encore la priorité, donc tout ceci demandera beaucoup de temps. Donc, il n'y aura pas un changement, je pense, fondamental, mais effectivement, on voit bien que Moscou, s'il y a une précipitation dans la reconquête d'Alep, parce que ce scénario tel qu'il s'est déroulé aurait pu se dérouler bien avant. Mais ils le font parce qu'il y a effectivement cette période de transition là aux États-Unis. Et ils se sentent encouragés, il faut le dire aussi, en Occident, quand on voit les perspectives en France, là aussi, c'est un encouragement avec un Poutine qui félicite le candidat de la droite, ça c'est très important, qui a tenu d'ailleurs des propos tout à fait étonnants, je pense que c'est important de le dire, quand il se pose en défenseur des seules communautés chrétiennes. Il y a un problème où Yazidi, donc il y a un vrai problème des communautés chrétiennes en Irak et en Syrie, et les Nations Unies se sont penchées là-dessus, mais ceux qui souffrent le plus, c'est la majorité sunnite. Parce que quand on entend ce candidat dire que si les sunnites reviennent au pouvoir, eh bien à ce moment-là, c'est la disparition des communautés chrétiennes. Donc c'est véritablement mal connaître le dossier. Alors je pense que là aussi, il sera sans doute, Fillon, beaucoup plus pragmatique si il devait accéder évidemment à la magistrature suprême.
Ziad Majed, sur cette question de l'arrivée de Donald Trump.
Oui, deux commentaires rapides. Alors Donald Trump, il veut à la fois être proche des Russes, et moi je pense qu'une des raisons peut-être de la reprise des négociations entre Russes et Américains, la question de la trêve que proposent les Russes, et ils veulent que la population évacue Alep pour reconquérir totalement la ville, c'est de proposer plus tard à Trump, le 21 janvier, une guerre commune contre l'État islamique, pour montrer qu'on a dépassé toute la question du débat sur Assad et son destin, et de trouver un compromis, un accord avec les Américains. Il se peut que ça soit une des options de Poutine. Mais du côté de Trump, il promet une coopération avec Poutine, et en même temps, il a jusqu'à maintenant des positions très anti-iraniennes, que ce soit par rapport au nucléaire et même par rapport à l'expansion de l'Iran dans la région. Donc cela, en Syrie comme en Irak, ne va pas être facile à concilier entre des positions pro-russes et des positions anti-iraniennes. Soit c'est le réalisme qui va rattraper les choses, soit il y aura des contradictions. Juste une dernière chose par rapport aux communautés minoritaires. Moi, je pense que c'est un débat très important, très légitime, mais en même temps de montrer que la garantie des minorités au Proche-Orient, c'est les dictatures, c'est le fascisme, c'est l'absence de démocratie, c'est de ne pas comprendre ni l'histoire des communautés minoritaires qui ont joué un rôle très important dans la renaissance arabe et dans l'émancipation de cette région-là, c'est de les confier à un rôle où ils sont juste les protégés des régimes les plus monstrueux, et cela crée des problèmes avec le reste de la société et n'est pas du tout en leur faveur, et on ne leur rend pas service en considérant qu'ils sont juste là parce qu'ils sont protégés par des régimes barbares qui écrasent la majorité, parce que c'est exactement une vision qui a, non seulement qu'elle ne comprend pas la région, mais qu'elle fait tort aux minorités chrétiennes eux-mêmes qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de la région.
On arrive presque au terme de cette émission. Yves Aubin de la Missusière, j'ai revu cette semaine les images, juin 92, quand François Mitterrand se rend à Sarajevo. Vous les avez forcément en tête. Il force la réouverture de l'aéroport tenu à l'époque par les milices serbes. Il rend visite au président bosniaque. Il se rend à l'hôpital de Sarajevo. Il dépose une rose sur le site où était tombé un mortier tuant une vingtaine de personnes qui faisaient la queue devant une boulangerie. Et par ce geste, c'est vrai qu'il a permis de faire ouvrir l'aéroport et de ensuite se permis ce déploiement des casques bleus. Pourquoi ce geste n'a pas été fait à Alep?
Ah, il aurait pu se faire bien avant la récente offensive. Probablement, il y avait des possibilités d'accès. Maintenant, c'est totalement impossible.
Bien sûr.
Et je pense qu'il y a effectivement cette rumeur qui court selon laquelle François Hollande pourrait se rendre là-bas. Moi, je n'y crois pas. Parce qu'il faut voir que Stéphane Di Mistura, le représentant spécial de l'ONU, courageux, que je connais bien, il ne peut pas s'y rendre. Personne. La Croix-Rouge internationale n'est pas présente. Les journalistes ne sont pas présents. Donc, il faudrait une sécurisation formidable, même s'il y a un accord de la part de Moscou. Je vois mal comment il peut s'y rendre.
Alors, effectivement, aujourd'hui, ça paraît compliqué, mais ça aurait pu être
alors,
possible.
Alors, il y en a d'autres. Cécile Duflot l'a annoncé qu'elle allait se rendre le 15 décembre à Alep avec des parlementaires. C'est ce que j'appelle la diplomatie spectacle. Ou la diplomatie émotionnelle, en quelque sorte. Donc tout ça est totalement irréaliste. Mais ce qui s'est passé à Sarajevo, c'était différent, parce qu'il y avait quand même déjà des forces internationales. Absolument. Qui étaient présentes.
Merci beaucoup à tous. Marc Semo, notre partenaire du Monde, tous les vendredis. Yves Aubin de la Missusière, je rappellerai votre livre qui vient de paraître, Monde arabe, le grand chambardement, qui vient de paraître chez Plon. Merci également à vous, Ziad Majed, d'avoir
Merci
été avec nous ce matin.
العمر والخلاخيل بتتعب وبتنام شوي وبيصلي الفجر شباب.
On ferme cette table ronde consacrée à la Syrie. On se tourne vers le monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez cette semaine de réappropriation culturelle et des Rolling Stones. Dernier volet donc de votre enquête sur les Rolling Stones et les musiques noires.
Les premiers albums de Prince, c'était autant de prises de la part d'un noir américain sur la New Wave et le rock. L'approche musicale des Stones va dans le sens inverse des blancs anglais qui s'attaquent au blues africain-américain. C'est clair et net sur Blue and Lonesome. Si le groupe faisait ses débuts maintenant en essayant la même chose, il serait accusé d'appropriation culturelle, c'est-à-dire de voler à quelqu'un d'autre sa culture. C'est ce qu'écrit très judicieusement le critique musical du Guardian de Londres, Alex Needham. Et il a raison. Les mentalités ont changé de manière inconcevable en 50 ans. Ce qui était considéré comme une démarche antiraciste et progressiste dans les années 60, comme aller à la recherche des pépites dans le blues de Chicago de la décennie précédente, est devenu étrangement une manifestation d'irrespect, voire de racisme. Que s'est-il passé ? Eh bien, dans le monde très particulier des campus anglo-saxons, la pression du politiquement correct est montée d'un cran. Quelques exemples. le syndicat des étudiants de l'université d'East Anglia a interdit à un restaurant Tex-Mex, Cantina Pedro, d'offrir des sombreros à ses clients. Un coup de pub raciste, selon le syndicat. Chaque collège, chaque université adopte dorénavant une liste des costumes appropriés ou non appropriés pour les fêtes déguisées d'Halloween. Et de manière générale, sont proscrites les tenues de geisha, de samouraï, c'est une offense à la culture japonaise. Il est inapproprié de se déguiser en indien, c'est une offense envers les Native Americans. Les supporters des Washington Redskins, qui arborent des plumes dans les cheveux, sont sur la sellette. Ils sont accusés de, je cite, « reproduire des stéréotypes racistes ». Bizarrement, les déguisements de cow-boys ne tombent pas pour l'instant sous cette réprobation. On peut donc continuer à porter impunément des Stetson. Mais à San Francisco, les étudiants blancs qui s'étaient coiffés de dreadlocks ont dû s'excuser de s'être ainsi approprié une expression culturelle africaine ou peut-être jamaïcaine, on ne sait pas. À l'université d'Ottawa, on a dû renoncer carrément au cours de yoga. Motif officiel, l'Amérique du Nord ne saurait s'emparer d'une culture qui a souffert d'oppression et de génocide culturel. Et en octobre dernier, en Angleterre, à Bristol, la mise en scène d'Aïda par Elton John a été interrompue. Les étudiants ont exigé et obtenu la fin des représentations pour atteinte à la diversité culturelle. Comment avait-on osé donner le rôle d'une princesse éthiopienne à une chanteuse blanche ? La romancière américaine Lionel Shriver, auteur du best-seller « Il faut qu'on parle de Kevin » en français, a déclenché une belle polémique lors d'un festival d'écrivains à Brisbane en Australie en septembre dernier. Invitée à plancher sur le thème « communauté et appartenance », elle a réclamé au nom des auteurs de fiction le droit de faire parler des personnages n'appartenant pas à sa propre communauté, y compris celles qui font l'objet de protections spéciales. Sinon, a-t-elle expliqué, je ne pourrais plus mettre en scène que des femmes blanches originaires de Caroline du Nord et abordant la cinquantaine. En effet, avec des exigences aussi farfelues, on essentialise comme jamais les cultures et surtout, on les réduit à l'identité supposée de leur protagoniste, autant réduire toute l'œuvre de Mozart à son identité de mâle blanc hétérosexuel ancré dans la culture germanique. Contrairement à ce que prétend le discours médiatique ambiant, le multiculturalisme ne favorise pas le métissage des cultures. Au contraire, il la proscrit théoriquement et l'empêche en pratique, puisqu'il développe un discours de l'authenticité qui vise à préserver les cultures minoritaires comme autant de réserves d'Indiens. Le multiculturalisme aboutit ainsi à une ethnicisation et à une folklorisation des cultures minoritaires. Or, les genres culturels majeurs, que ce soit la musique classique ou le jazz, et dans le cas qui nous intéresse, le blues, sont certes liés au groupe social, national, ethnique, sexuel et tout ce qu'on voudra qui leur a donné naissance, mais ils ont une vocation universelle. Même un genre aussi marqué géographiquement que le tango a trouvé sa plus grande vedette dans un chanteur né à Toulouse, Carlos Gardel, qu'on nous épargne donc tout enfermement puritain des cultures dans des limites nationales ou ethniques, et qu'on me laisse écouter l'allemand Schumann, interprété par le chilien Claudio Arao, l'argentine Marta Argerich, sans doute ses meilleurs interprètes, ou encore Leontine Price chantait Verdi et Jesse Norman Richard Strauss. Et pour revenir aux Stones, quelle que soit la couleur de leur épiderme, ce sont d'excellents bluesmen, une nouvelle preuve avec ce morceau Blue and Lonesome qui donne son titre à leur nouvel album. We'll be right back.
Blue and Lonesome qui vient de sortir, le dernier album des Stones, réappropriation culturelle peut-être, peut-être en tout cas, de toute façon de la bonne musique. Merci beaucoup de nous en avoir fait profiter cette semaine, Brice Couturier. Effectivement, le multiculturalisme ne favorise pas toujours le métissage des cultures. Ça
peut... Il l'empêche.
Il l'empêche même parfois. Merci beaucoup en tout cas, Brice. On peut retrouver bien sûr vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Mais pour l'heure, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.